Bonjour chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, bienvenue dans notre émission consacrée à l'art et à la foi. Nous allons écouter aujourd'hui avec un grand plaisir Éric Montigny, qui est avec nous dans le studio de Chartres. Il est calligraphe, chrysographe et enlumineur professionnel. Et surtout, il est chargé de cours à l'École internationale du vitrail et du patrimoine à Chartres, où il sera en 2013 et 2014 chargé de plusieurs cours sur la calligraphie et la pratique de l'enluminure. Nous allons découvrir avec lui aujourd'hui la naissance de l'écriture. Donc je souhaite la bienvenue à Éric de Montigny dans notre studio.
Bonjour, donc effectivement je suis très heureux de pouvoir animer ces cours au Centre international du vitrail et puis je vais commencer d'en parler un petit peu. Donc au niveau des deux thèmes de cette année, puisque nous allons parler de calligraphie et d'enluminure, que ces deux thèmes vont être intimement mêlés, nous allons travailler sur un superbe document du Moyen-Âge, donc le livre qu'on appelle à l'heure actuelle le Psautier doré de Munich, qui en fait a été réalisé aux alentours d'Oxford. Donc il a été réalisé, pense-t-on, entre 1200 et 1221. Ce psautier est tout à fait remarquable, car c'est l'un des plus richement décorés, d'où le nom de doré. Ce manuscrit, non seulement sera extrêmement populaire, et au niveau du nombre d'enluminures et de lettrines, cela permettra de s'appuyer sur des éléments concrets afin d'étudier les structures au niveau de la lettrine, de l'enluminure, et de les appliquer pendant ces cours. L'autre domaine est la calligraphie, et là, la calligraphie, c'est très simple aussi. Nous allons nous baser sur l'écriture qui a été choisie pour ce psautier. C'est une écriture extrêmement importante, puisque nous sommes à une période, charnière. On n'est pas tout à fait dans les écritures gothiques, et on n'est plus non plus dans les écritures de type Caroline Tardive. Donc c'est une écriture très importante, c'est une écriture que nous rangeons dans la classe des écritures proto-gothiques. Donc là aussi, nous allons voir le type de matériel que nous pouvons utiliser, s'appesantir sur les formes d'autrefois et travailler très sereinement à l'ombre de la cathédrale.
Alors, psautier, c'est un recueil des psaumes. C'était le livre de lecture au Moyen-Âge.
Oui, alors c'est un des livres de lecture. Ce type d'ouvrage était extrêmement populaire dans les années, au XIIIe et XIVe siècle. Puis, fin du XIVe siècle, il y a un autre livre qui va supplanter le psautier. Ce sera le livre d'heures. Donc, les heures de la Vierge, un livre extrêmement important, un livre de prière.
Donc, votre cours, il permettra de découvrir ce psautier à travers de photocopies ou par d'autres supports, des diapositives ou...
Oui, donc ce que je ferai, c'est évidemment une projection de quelques éléments. Alors, c'est vrai que ce psautier, il est extrêmement riche. Nous n'aurons pas le temps de voir toutes les pages enluminées. Mais cependant, il y aura un choix qui aura été opéré et cela permettra de voir à peu près dans la projection, la quasi-totalité du document qui est absolument magnifique.
Voilà, en général, les cours à l'école commencent au mois de septembre. Donc, toutes les personnes qui s'intéressent à la calligraphie, à l'enluminure, sont chaleureusement invitées à devenir vos élèves.
Oui, d'autant plus qu'il n'y a pas de niveau prérequis. C'est-à-dire que qui que ce soit qui va s'initier, peut venir. Évidemment, le travail sera beaucoup plus humble pour une première année. Cependant, le travail est très sérieux. Et pour les personnes qui sont déjà expérimentées, elles pourront aller plus vite et plus loin.
Alors, vous allez nous présenter aujourd'hui la naissance de l'écriture. C'est un vaste sujet, donc on vous écoutera avec beaucoup d'attention. On pensera d'abord peut-être aux tablettes de la loi que Moïse a reçues de Dieu. Ça serait donc une œuvre à Cairo poète, non faite de main d'homme. Donc, on ne pourra pas décrire les tables de la loi, mais Vous allez pouvoir nous parler des premiers témoignages de l'écriture.
Oui, c'est un phénomène qui est en fait pas si vieux que ça dans l'histoire de l'humanité, puisque pour arrondir et simplifier, eh bien on peut dire que la naissance de l'écriture a 6000 ans au grand maximum. Donc l'écriture, évidemment, ne voit pas le jour, on va dire soudainement. Il y a une phase intermédiaire, et cette phase, on appelle ça une phase de proto-écriture. C'est-à-dire que de par la société mésopotamienne qui était très active au niveau commercial, au niveau culturel, il y a eu la nécessité de pouvoir laisser des traces d'éléments très importants. Donc, les premiers types d'écriture vont simplement noter des idées. Des idées vont être hiérarchisées par ordre d'importance. Donc, cela veut dire évidemment que c'est indépendant de toute langue, puisque les idées, on peut les transcrire dans toutes les langues. Et cela veut dire aussi qu'il y a une impossibilité d'avoir un récit séquentiel comme on le fait à l'heure actuelle. Donc ça, c'est la première étape. Donc on a des tableaux, on range les idées. Cependant, le système va s'avérer, on va dire, un petit peu limité. Il ne va pas répondre entièrement aux besoins de cette société. Et l'écriture, eh bien, cette proto-écriture va évoluer en une écriture qui pourra enfin noter, eh bien, la pensée d'une manière séquentielle. À partir de ce moment-là, eh bien, nous aurons la possibilité d'avoir des traités, des lois qui vont être notées, des traités de médecine, des premières compilations d'histoire. Alors, au niveau de ce type d'écriture, de ces premières écritures, donc on va parler d'une écriture de type cunéiforme, tout simplement parce que dans cette partie du monde, les gens vont écrire avec des roseaux. Les roseaux vont être taillés et vont pouvoir laisser des empreintes dans les tablettes d'argile. Alors, ces empreintes ressemblent très souvent à des petits clous. Bon, il y a aussi des disques et des demi-disques. Et de par la forme de ces petits clous, eh bien, le nom qu'on va lui donner sera de cunéiforme. Donc c'est un système qui sera, on peut dire, assez lourd, qui marche principalement sur un système pictographique, donc pictogramme. J'ai un objet, j'essaie de représenter l'objet par un symbole. Alors évidemment, même ici, dans ce studio, nous avons beaucoup d'objets. Si on voulait partir sur un tel système, nous aurions déjà beaucoup de symboles. Donc le système pictographique est lourd, puisque ces gens vont utiliser jusqu'à à peu près 1500 caractères. Alors là, on peut faire une petite parenthèse. Il y a une autre culture aussi qui continue à utiliser un système de pictogrammes et d'idéogrammes. On pense tout de suite à la culture chinoise ou japonaise. Et les Chinois, à l'heure actuelle, sont à plus de 50 000 caractères.
Donc, ils passent pratiquement leur vie à apprendre leur écriture.
Alors, ils ne connaissent pas tous et tous les caractères. Donc on pense qu'un Chinois qui est lettré, universitaire, connaîtra entre les 15 000 et 20 000 caractères, ce qui est déjà pas mal.
Ce sont aussi des pictogrammes. Quand on connaît un peu le japonais, les hiragana et les katakana, on assemble aussi des idées qui sont représentées par des traits, par des petits signes.
C'est ça. Alors, hiragana et katakana, ce sont deux systèmes purement syllabiques japonais qui permettent soit l'un de noter n'importe quel mot japonais et l'autre système sert principalement aux mots étrangers.
Nous sommes sur les ondes de Radio Grand Ciel et Éric de Montigny nous fait l'amitié de nous parler aujourd'hui de la naissance de l'écriture. Donc nous étions aux innombrables dizaines de milliers de signes chinois qu'ils utilisent pour leur écriture. Donc le premier support de l'écriture, vous nous disiez, c'était les tablettes d'argile.
Oui, les tablettes d'argile, tout simplement parce que les gens autrefois utilisaient ce qu'ils avaient dans leur environnement. C'est vrai que c'était une région déjà qui était assez chaude et il n'y avait pas trop de matériaux non plus. Donc les tablettes d'argile ont été un parfait support d'écriture. Donc très souvent, il faut imaginer que les tablettes n'étaient pas forcément des choses extrêmement grandes. Elles tenaient principalement dans la paume de la main. Donc on pouvait y graver les différents signes, les consigner. Alors on sait très bien que pour que l'argile puisse tenir dans le temps, il y a vraiment deux méthodes de cuisson. Il faut les cuire soit au soleil, mais dans ce cas-là, la durée de vie de la tablette sera moindre, ou soit la cuire dans un four. Alors il y a quelque chose de tout à fait paradoxal. Nous avons énormément de témoignages de cette époque qui ont été conservés, et là, ce qui est paradoxal, c'est de dire que c'est grâce aux guerres. Alors ça paraît toujours étonnant. Eh bien tout simplement que, de par les nombreuses guerres qu'il y avait déjà autrefois, une guerre se terminait très souvent en incendiant une ville. Eh bien, s'il y a le feu, bah, ça cuit les tablettes d'argile, les tablettes sont protégées. Et on a pu en retrouver énormément. Ce qui n'était pas le cas par la suite avec d'autres types de supports, comme on le verra. Alors ça, c'était le premier type d'écriture. Il y a un deuxième type d'écriture qui est majeur, grande civilisation. Ça va être l'écriture donnée par une divinité, par le dieu Thoth, donc en Égypte. Une écriture de type hiéroglyphique. Alors, on pense qu'à la naissance de l'écriture égyptienne, eh bien, elle est basée tout simplement sur des méthodes de calcul agraire. On va dire que l'élément principal du développement économique et culturel de l'Égypte, ça va être le fleuve, ce fameux fleuve qui est le Nil. Le Nil bouge beaucoup, continuellement, durant l'année, et donc on a des méthodes agraires de calcul. À partir de ce système-là, eh bien, l'écriture va rapidement évoluer. Et il y aura quatre grands types d'écriture en Égypte. Alors le dieu Thoth, on peut en parler un petit peu tout de même, puisque c'est lui qui aurait donné l'écriture aux Égyptiens. C'est un dieu qui est très important, puisqu'autrefois, les Égyptiens devaient lui mettre le qualificatif « grand » devant son nom. Ils devaient le mettre 8 fois de suite. Donc n'oublions pas aussi que pendant la guerre des dieux en Égypte, c'est Thoth qui a fait les premières opérations de chirurgie très poussées, puisqu'il va remettre en place l'œil d'Horus. Donc ce n'est pas rien. Donc Thoth donne l'écriture, il donne les lois, il donne les sciences. Donc c'est un dieu majeur. Donc dans les autres types d'écriture que l'on connaît en Égypte, nous allons avoir les hiéroglyphes linéaires, qui eux servaient à l'écriture sur les sarcophages. Nous allons avoir un type d'écriture qui se fait sur papyrus, principalement l'écriture hiératique, l'écriture sacrée, l'écriture des prêtres. Et enfin, viendra un dernier type d'écriture qu'on appelle la démotique, largement utilisée par l'administration égyptienne, par le commerce. C'est des systèmes relativement lourds. Nous avons plus de 700 hiéroglyphes. Et les hiéroglyphes, à cette époque-là, ont plusieurs valeurs. Soit le pictogramme, prenons un exemple. Je prends, par exemple, un pied. Alors, je vais représenter un hiéroglyphe qui présente le pied. Ça, c'est un pictogramme. Cependant, le pictogramme peut évoluer. Il peut devenir un idéogramme. L'idéogramme, par exemple, je reprends le pied, c'est l'idée que je vais y associer. Eh bien, l'idée que je vais pouvoir associer, ça va être marcher, avancer, progresser, mais je ne parle plus du pied. Ça, c'est une deuxième valeur. On peut avoir des valeurs aussi abstraites. Un dictogramme. Comment dessiner beau, bien. On a aussi ça. On va pouvoir se servir des hiéroglyphes en tant que phonème, c'est-à-dire qu'il va préciser le son. En tant que déterminatif, préciser la fonction du mot dans la phrase. Est-ce un sujet, est-ce un complément? Donc, ça fait beaucoup de fonctions différentes pour nombre de hiéroglyphes. Trois sens d'écriture, de gauche à droite, ou de droite à gauche, ou de haut en bas. Alors, parmi les idées qui sont absolument révolutionnaires, eh bien, une est majeure et très importante, ça va être un nouveau type d'écriture qui va voir le jour sur le Sinaï, l'écriture proto-sinaïtique. Ces gens-là vont avoir une idée remarquable, noter les sons de la langue. On arrête le pictogramme, et par un système de synthèse, eh bien, nous allons avoir que très peu de symboles, puisqu'il y a peu de sons dans une langue. Donc, ils vont partir ce système-là, qui va être repris par les Cananéens. Ce système qu'on appelle un abjad, c'est-à-dire un système alphabétique quasiment, sauf qu'il n'y a pas de voyelles. C'est repris donc par les Phéniciens. Les Grecs vont s'inspirer aussi de ce système-là, vont modifier le nombre de caractères, Et les Grecs vont rajouter quelque chose de très important que nous, Français, on utilise, les voyelles. On sait que la culture grecque, eh bien, les Grecs vont avoir nombre de comptoirs en Méditerranée, notamment avec un comptoir en Italie, sur cette péninsule italienne, donc les Étrusques, que eux, l'écriture va évoluer un petit peu, et que Rome, grandissant de plus en plus, va absorber aussi bien la culture grecque que des Étrusques et modifier leur alphabet. Donc on remarque aussi les différents types d'écriture que nous avons eu dans le monde, notamment l'écriture proto-sémitique qui va donner l'écriture hébraïque, entre autres, l'écriture des Grecs, notre écriture. Si on prend le premier caractère hébraïque, on a Aleph. Chez les Grecs, on a Alpha. Chez nous, on a A. Avec l'islam et l'écriture arabe, nous aurons Alif. Deuxième lettre, pareil, nous allons avoir Bet ou Beta chez les Grecs, B chez nous. Et puis, chez les Arabes, ce sera donc la lettre Bat. Alors, il y a juste un petit changement dans l'ordre alphabétique, c'est la troisième lettre. Bon, on sait très bien que chez les Hébreux ou chez les Grecs, nous allons avoir Gimel ou Gamma. Mais nous n'avons pas la lettre G en troisième position. Alors c'est simple, il n'y avait pas le son G chez les Romains, donc il n'y a pas de troisième position pour le G. Mais par la suite, on reprend l'ordre. Donc l'écriture latine, qui est notre système d'écriture, basé sur l'écriture des Romains, est une écriture majeure, qui est quasiment l'écriture la plus utilisée dès le début de notre ère. L'Empire est vaste, et l'écriture, sur ce petit groupe de lettres, puisqu'il y en a 22 au départ, eh bien nous allons continuer en Occident à évoluer dessus.
Et les supports maintenant, ils ne seront plus exclusivement l'argile. On parle toujours, quand on parle des Romains, de l'écriture romaine, des fameuses tablettes de cire, oui. Le papyrus chez les Égyptiens.
Alors c'est vrai, il y a eu le papyrus qui a été un élément extrêmement important chez les Égyptiens, mais pas que chez eux, puisque les Grecs achèteront du papyrus pour tous les écrits, ainsi que les Romains. Donc la première forme du livre est quelque chose aussi de très très importante. La première forme du livre, c'est le rouleau. Très souvent, les rouleaux sont en papyrus et le papyrus ne supporte pas la pliure. Donc évidemment, si je colle les différentes feuilles de papyrus les unes aux autres, j'ai une bande d'une dizaine de mètres. Seule façon de transporter une telle bande, c'est de la rouler. Alors, sous l'Empire romain, là, il y a un grand changement. Vers le deuxième siècle de notre ère, l'Égypte se montre inapte à approvisionner l'Empire romain avec assez de papyrus. Ils sont forcés de trouver un nouveau type de support. Donc, ça va être la peau de l'animal qui va être préparée différemment, à Pergame, et ça donnera donc le nom de parchemin. Alors, il faut savoir qu'il y a toujours beaucoup d'inertie et de résistance à toute nouveauté. Ce qui fait qu'on a retrouvé des lettres de notables romains qui, n'ayant plus de papyrus pour écrire, n'avaient que du parchemin et commençaient donc leur missive par s'excuser du support, considéré comme rustre et barbare.
Qu'en est-il de la durée de vie et du papyrus et du parchemin ?
Alors le papyrus est beaucoup plus fragile, il faut vraiment y faire très attention, ce qui n'est pas le cas du parchemin. Le parchemin est l'un des supports les plus résistants. Mmh. Et le parchemin, même dans notre histoire, va être utilisé très longtemps, avec des débouchés assez inattendus. Début du XXe siècle, par exemple, chez nous, en Europe, le parchemin va servir à faire des étiquettes de prix, à faire des revêtements de bagages, et à blinder les premières hélices en bois des premiers aviateurs.
Thank you. Chers auditeurs de Radio Grand-Ciel, Éric de Montigny, calligraphe et grand spécialiste de tout ce qui se rapporte à l'écriture, nous parle de la naissance de l'écriture et de la résistance que les Romains vont opposer à l'introduction du parchemin. On va utiliser jusqu'à quand, est-ce qu'on a une idée, jusqu'à quand est-ce qu'on va utiliser le papyrus ici en Occident ?
Oui, le papyrus va être très longtemps encore utilisé en parallèle avec le parchemin par la suite. Pour tout ce qui était très officiel et très important par l'Église, les documents étaient faits sur papyrus, d'où Rome fera pousser du papyrus en Sicile, entre autres. Alors, l'un des derniers papyri que nous retrouvons en Occident remonterait au XIe siècle. Bon, c'est une durée de vie qui est tout à fait importante.
Est-ce qu'on en a gardé facilement les papyrus qui sont beaucoup plus fragiles que le parchemin ?
Alors, peu dans les époques reculées, beaucoup plus sous l'Empire romain. Mais c'est vrai que le papyrus est très fragile. Donc, il craint l'humidité, il craint la pliure, il craint le feu. Il faut vraiment le stocker avec soin. Par la suite, comme on a vu, le parchemin va être largement utilisé. Cependant, il ne faut pas oublier que le parchemin reste quelque chose de très cher. Alors, les siècles passant, le parchemin va gagner toutes ses lettres de noblesse. Et par la suite, comme nous le savons, tous les grands écrits vont se faire sur parchemin.
Pourquoi est-ce que l'Église a demandé l'utilisation du papyrus pour tout ce qui était officiel ? Est-ce que le papyrus ne se regrette pas comme le parchemin ? Est-ce que c'est un support plus fiable parce que ne pas falsifiable ?
Non, je pense surtout que c'était le côté prestigieux et puis cette valeur de noblesse qu'on lui avait accordée. Et il y avait aussi cet héritage issu des Grecs et des Romains.
Donc, puis la provenance végétale ou animale, l'Église se méfie beaucoup dans les premiers temps de tout ce qui est d'origine animale. Peut-être cet élément a pu jouer également.
Alors peu, je pense, puisqu'on avait quand même l'utilisation des peaux pour se vêtir, du cuir, des ceintures, des bottes. Je pense surtout que lorsqu'on voit du papyrus, il y a toujours ce côté un peu fascinant. L'écriture se fait différemment. Et c'est vrai qu'on a un certain charme au niveau du papyrus. Le parchemin, lui, sera différent déjà. Il est animal, il est plus lourd, mais cependant, il va nous donner aussi d'excellents résultats, notamment avec les enluminures, puisque de par les couleurs appliquées, elles ne vont pas sombrer dans le support, mais rester en surface.
Le papyrus absorbait les encres.
Un petit peu. Et le papyrus, comme on sait que c'est un support qui est fibreux, il fallait aussi le poncer avec des pierres pour aplatir un peu les fibres. Alors le parchemin, nous allons avoir différents animaux qui vont être utilisés pour le parchemin. Bien sûr, on ne tuait pas les animaux pour les peaux. On tuait les animaux principalement pour manger, on récupérait, on ne gaspillait pas dans ces époques-là. Donc les animaux les plus utilisés pour le parchemin, nous allons avoir la chèvre, le mouton, le chevreau et le veau. Et le plus beau des supports, c'est réellement le veau. On prenait des très jeunes veaux, qu'on pouvait appeler autrefois, même par abus de langage, des veaux mort-nés. Mais évidemment, on ne faisait pas avorter des vaches, surtout dans ces époques-là où il n'y avait déjà pas assez à manger. On prenait donc les très jeunes veaux, tout simplement parce que la peau était parfaite. Pas de blessures, pas de piqûres d'insectes, et ça faisait de très beaux supports. Les pores n'apparaissent pas, et donc c'est extrêmement lisse. Et donc le veau, lui, va nous donner le terme de vélin. Donc les vélins, au départ, c'est réellement du parchemin. Alors nous savons que le parchemin est très très cher. À partir de Charlemagne, l'économie va redémarrer, les arts vont redémarrer, et on parle d'une première petite renaissance. À partir de cette époque-là, eh bien, comme l'économie redémarre et que les arts redémarrent, il va falloir de plus en plus de supports d'écriture. Ça va aboutir aussi à la création des premières universités, à Paris au XIIIe siècle. Et il faudra des livres, pour les étudiants aussi. Alors on sait, pour donner un ordre d'idée au niveau des prix, on a retrouvé des pièces comptables du XIIIe siècle à Paris. Un homme qui exerçait la profession de libraire, eh bien, il a vendu une Bible, une très belle Bible, pour la somme à peu près de 45 livres parisis, somme qui était énorme, puisque pour 42 livres parisis, il avait vendu sa maison. Donc on peut dire, grosso modo, que pour un très beau livre, au Moyen-Âge, on s'achète quasiment une maison à Paris.
C'est formidable. Alors, quelles sont les écritures ou les encres qui sont utilisées sur le parchemin et sur le papyrus ?
Alors, nous, on est dans une culture tout à fait particulière au niveau de l'écriture. Il faut bien imaginer que les modes changent, les styles changent, les écritures changent. Donc, on peut dire qu'au niveau des pays qui ont utilisé l'écriture latine, comme la France, l'Italie, l'Angleterre, les Pays-Bas et ainsi de suite, nous sommes la seule culture au monde à avoir une écriture assez simple, nous avons peu de caractères, mais avec autant de formes différentes. Tout le monde connaît à peu près l'écriture gothique, On ne devrait pas dire l'écriture gothique, puisqu'il y a 5 grandes familles et 150 variantes à peu près. Donc nous avons beaucoup de formes différentes. Alors selon les époques, eh bien, nous changeons de style d'écriture. Sous les Romains, nous allons avoir la capitaliste monumentaliste, nous allons avoir les écritures de type rustica, des onciales, onciales qui sera utilisée pendant très longtemps, puisque nous allons avoir Saint Jérôme, qui fera un travail absolument remarquable, puisqu'il va traduire la Bible en latin, la Vulgate. Et donc les premières Vulgates seront tracées avec ce caractère. Nous allons avoir d'autres écritures difficiles suite à la chute de l'Empire romain, puisque là, les écritures deviennent vraiment difficiles au niveau de reconnaissance des caractères, comme les écritures qu'on va développer à Luxeuil chez nous. Et il faudra attendre eh bien, Charlemagne qui va sentir la nécessité d'avoir une réforme au niveau de l'écriture, afin, parce qu'il était très soucieux que les papiers de l'Empire et tout ce qui était administration se fasse le plus sereinement possible, et que les gens, surtout, puissent aussi copier les Bibles sans faire de faute. Donc au niveau de sa réforme, il va être tenace, il va s'y prendre à 3 fois. Et c'est au bout de la 3e fois où il va s'associer à un prêtre qui vient d'Angleterre, de York, qu'il va pouvoir faire passer ce nouveau type d'écriture. Alors l'écriture sous Charlemagne, en l'honneur de l'empereur, s'appellera la Caroline, une écriture majeure, extrêmement importante, puisque toute l'Europe lettrée à cette époque va connaître ce nouveau type d'écriture, à part l'Irlande et l'Italie méridionale. Alors ce qui fait barrage en Italie, c'est simplement le Mont Cassin, qui est un centre de production extrêmement important, et ils ont leur propre écriture. Cependant, l'écriture de Charlemagne va durer, on va dire, un bon siècle avant de se transformer en Caroline tardive et donner naissance à ce qu'on va appeler les proto-gothiques. C'est une écriture qui va faire parler d'elle encore, l'écriture carolingienne, puisque nous savons qu'à travers les derniers siècles du Moyen-Âge, l'écriture, puisque l'économie redémarre et que les arts redémarrent, l'écriture devient de plus en plus sophistiquée. Et des fois, elle est tellement sophistiquée que ce n'est pas un avantage pour la lecture. Donc nous aurons des gens comme Pétrarque qui se plaindra des écritures de ses contemporains. Alors en Italie, à la Renaissance, grande période, eh bien nombre de scribes vont s'attarder sur le modèle carolingien pour faire un nouveau type d'écriture qu'on appellera l'écriture humanistique. Et l'écriture humanistique sera copiée par les typographes pour faire les minuscules d'imprimerie qu'on utilise quasiment tous les jours.
Donc une évolution qui sera faite sous Charlemagne d'abord parce qu'il ressent le besoin de centraliser pour d'abord une bonne compréhension et pour éviter des fautes. Et ensuite, est-ce que cette évolution va se faire un peu en fonction des calligraphes, de chaque personnalité qui s'exprimera ?
Alors, on a toujours des contraintes économiques qui vont influer. C'est vrai que lorsqu'on regarde deux types d'écriture, par exemple une écriture carolingienne et une écriture de type gothique carré, l'écriture gothique carré prend moins de place. L'économie redémarrant, il va falloir de plus en plus d'écrits, le parchemin reste cher, il faut l'économiser. Donc on va compacter l'écriture, on va la faire un peu moins grande, et on va utiliser nombre d'abréviations, de contractions. On gagne de la place.
Voilà, et avec l'écriture au Moyen-Âge, on va introduire un nombre considérable d'abréviations,
oui.
À nouveau par souci de gagner de la place. Donc merci beaucoup, Monsieur Montigny. On a pu découvrir grâce à vous, qui êtes chargé de cours à l'École internationale du vitrail et du patrimoine ici à Chartres, organisée par le Centre international du vitrail, cette naissance de l'écriture d'abord pour des besoins économiques sur des tablettes d'argile et ensuite ce formidable essor par la création de l'alphabet qui permettra de s'exprimer très clairement. Donc merci beaucoup à Éric de Montigny. Pour les auditeurs qui voudraient se renseigner, allez voir sur le site de radiograndciel.fr, vous allez trouver toutes les informations concernant nos émissions. Je vous dis au revoir, merci beaucoup à Éric de Montigny,
merci
à Simon à la technique, très belle journée, au revoir.
Radio Grand Ciel, la radio qui rapproche les hommes.
الشهر جل